Eh Tom, les coulam, et on revient dans notre étude du dimanche soir, le livre de Shemot, chapitre 32, verset Aleph. Mais en vérité, pour bien le comprendre, il va falloir qu'on prenne le chapitre 31, verset Yutret, c'est-à-dire le dernier verset du chapitre 31, pour comprendre ce qui se joue, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Alors, le chapitre 32, c'est la fameuse histoire du veau d'or. Et là, il va falloir qu'on rentre dedans à pieds joints. Ça, c'est de l'histoire.
Rappelle, c'est quoi les...
Chapitre 31, verset 18, c'est-à-dire Perek Lamed Aleph, verset Pasuk Yud Chet.
On est dans Mishpatim.
Non, non, on est dans Kitissa, mon ami.
Dans Kitissa. Dans Trouma.
Qui dit ça? Alors, Vaïten el Moshe, Kechaloto le Daber Ito, Be'ar Sinai, Shene, Luchot Aedut, Luchot Even, Ketuvim, Be'etzba Elohim.
Page 147.
Pour certains livres blancs, c'est 148.
C'est vrai que le dernier
coup
est vraiment
d'un
mois. Non.
Non, il y a...
Deux semaines.
Ouais, juste il y a deux semaines.
On continue.
Donc, les amis, on est à la conclusion de tout ce qu'on pourrait appeler comme étant le Mahamad Arsinaï. Et là, ça y est, Dieu donne à Moshe les Luchot Abrit. Et on avait terminé la dernière fois en expliquant qu'est-ce que ça veut dire que Dieu donne les Luchot Abrit. Eh bien, ça veut dire que ça y est, le dévoilement divin n'est plus dans les cieux, il doit être ici-bas. C'est-à-dire, le moment où Moshe reçoit les Luchot, c'est le moment où la présence divine doit être ici. D'accord? C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, c'est énorme, et ça va être énorme. Le problème, c'est l'extraordinaire dissonance entre le fait que Dieu doit être présent avec les Luchot, mais il n'est pas là parce que Moshe est toujours en haut de la montagne. En haut de la montagne, il ne s'agit pas simplement de prendre un téléphérique. Il s'agit également de dimensions spirituelles. C'est-à-dire que Moshe n'est pas encore redescendu dans toutes les dimensions. Résultat des courses, le monde entier ressent que c'est le moment d'avoir la connexion avec le divin, et il y a un truc qui cloche, parce que cette connexion n'est pas là.
Il y a quand même un épisode où après le vautour, Dieu dit à Moshe, descend donc de la pluie, mais descend aussi de ton niveau par rapport à
Dieu. Tu donnes des versets que je ne connais pas encore, donc j'ai du mal à les exprimer. Hein? Qui te dit? Qui te dit? Peut-être cela, Zefka, je ne le connais pas, on ne sait pas. On verra bien.
Il y a une chose que je... C'était envisageable, ça.
C'était non seulement envisageable, c'était inévitable.
Voilà.
Inévitable. C'est-à-dire que...
Lorsqu'il était déjà en bas.
C'est inévitable qu'il y a une différence entre l'idéal et la réalité. Donc, quelque part, on peut même presque dire que le veau d'or était inévitable. Ça n'excuse pas ceux qui l'ont fait. Mais il va falloir essayer de comprendre ce qui pousse les Bnei Israël à faire ce qu'ils ont fait. D'accord ?
Le problème, c'est qu'on a échappé de peuple parce que Dieu, il était sûr de détruire tout le peuple.
Non, Shum Davar, Dieu, il ne va pas détruire le peuple. À aucun moment, s'il a prévu de le faire. Mais on va voir. Venez, on rentre dans les versets et on verra bien.
Non, mais il nous raconte déjà la fin du tour.
Alors, allons-y. Vayar Aham, Mizé Aham. Aham, c'est caché. Aham, des fois, ça fait référence au peuple juif et des fois au Erev Rav. Donc là, c'est le Erev Rav qui a chauffé le reste du peuple juif. Vayam Aham qui...
Où on le sait, ça?
Quoi?
Que c'est pas marqué.
Ah si, c'était marqué dans la paracha de Bo.
D'accord. On le sait pas encore.
Ben si.
On a lu Bo.
Ben oui.
Alors,
et ben là-bas, on a expliqué que c'était le Erev Rav. Vayar Aham ki boshesh Moshe la redet minahar. Et on avait dit, Mazé Boshesh, d'après la Kabbalah, ça veut dire Bashesh. C'est-à-dire qu'ils ont vu que est arrivée la sixième heure. Mazé la sixième heure. Chatzot. Sixième heure. Sixième heure, Chatzot Ayom, le milieu de la journée. Et il est midi. Et il n'est toujours pas arrivé. Donc ils se disent, mais Boshesh, ça veut dire quoi? Vayaram qui Boshesh.
C'est tardé, ils disent tardé dans le livre.
Exact. Mazé, tardé. Il a, c'est-à-dire que il n'est pas là. Boshesh, Lehit Boshesh, ou. Tu te rappelles de ce verset qu'on avait dit? Que Adam et Ishto ayu arumim velo yit boshashu. On avait expliqué il y a très très très, très longtemps.
Yahasra,
comme on dit en yiddish. Lo yit boshashu, ça veut dire pas qu'ils n'ont pas eu honte, mais que ça n'a pas duré longtemps. Donc qui boshesh, ça veut dire qu'il prend longtemps. Vayaram qui boshesh Moshe. Il prend du temps, il a tardé.
Il met du temps
à descendre, la redet minahar, en mala asot.
C'est lourd,
hein, de porter les louchotes, bah oui, c'est lourd, évidemment. Et puis, attends, même si le Har Sinaï, c'est pas l'Everest, bah, il faut quand même un peu de temps. Combien de temps il faut? 6 heures. Vayaram ki boshesh Moshe, la redet minahar. Donc, vayikael aam el alaaron. Vayamru elav. Excusez-moi, il manquerait pas quelqu'un? Qui est censé régler les problèmes du peuple pendant que Moshe est dans la montagne?
Ah oui, c'est ton frère Aaron.
Tout seul?
Non, il était aidé par Zikneam.
Non.
Non.
C'est trop... Comment qui?
Zikneam.
Zikneam, non.
Les Nassis.
Non, non, non. Oh, ce sont des, ce ne sont que des versets que nous avons déjà vus, hein. C'est pas... hein? Quand il est parti, Moshe, on l'a déjà lu, non plus. Alors vous allez me faire tous les noms, c'est bon.
Non, il avait attendu un peu plus.
Moshe a désigné 2 personnes qui sont les responsables du peuple lorsqu'il n'est pas là.
Ah oui, c'est Aaron et Yoshua.
Vous ne voulez pas, hein? Aaron Vechour. Mi Baal Devarim, Igash Alehem. Ah, d'où tu sais ça? Ben là, tu peux chercher parce que c'est pas marqué nulle part. C'est-à-dire qu'effectivement, Moshe a mis en place en bas 2 personnes pour gérer le peuple. Un, son frère, et l'autre, son beau-frère. Donc un, c'est Aaron, et l'autre, c'est le mari de Myriam. Hour. Hein?
Si c'est ton beau-frère, c'est le beau-frère de Tzipora.
Tu as raison que ça pourrait être le frère de Tzipora ou alors le mari de Myriam. Eh oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que Hour et Aaron sont tous les deux censés gérer le peuple. La question, pourquoi ici le peuple vient voir seulement Aaron? Réponse de nos sages, ah, parce que Hour, il est mort. Et pourquoi il est mort? Parce qu'ils l'ont tué. Le peuple. C'est-à-dire que avant de venir voir Aaron, ils sont venus voir Hour avec l'idée du veau d'or. Et Hour, il a dit « Nein, shum davar ». Et ils l'ont tué. Et quand ils sont venus voir Aaron, il a vu Hour par terre. Et il a dit « Bon, on va s'arranger ». La question c'est, est-ce qu'il a eu peur? Ou est-ce qu'il pense qu'effectivement, Hour a fait une erreur?
C'est un petit peu dans sa nature, Aaron, de régler les conflits.
Aaron, il aime régler les conflits. Tu as tout à fait raison.
Aaron, c'est comme une maman, on va dire.
Aaron, c'est comme une maman. Disons que Aaron, il a complètement une autre chita. Il a un autre style complètement que celui de Moshe et de Hour. Hour, c'est vraiment celui qui remplace Moshe quelque part, à ce niveau-là. C'est-à-dire, Hur, il a appris de Moshe que lorsque Zélo, à Zélo. Aaron, il a compris que lorsque c'est l'eau, c'est bon, on verra. C'est-à-dire, si jamais c'est interdit, eh ben, faut pas faire. Si c'est interdit, c'est interdit, mais jamais, on verra. Qui a le droit de faire ça à un enfant? Et il y a des gens qui ont et un sens de l'humour et une culture générale. Des gens qui n'ont ni l'un ni l'autre ou qui n'ont qu'un des deux ne comprennent pas les blagues.
D'accord ? Pour la comprendre, il faut être devant ou derrière la caméra.
C'est ça. En tout cas, qui a le droit de transgresser la halakha et que c'est moutard ?
Un prophète.
Donc dans la prophétie, t'as une case qui te dit tu peux transgresser pour un temps. Pourquoi faire? Pour faire faire tchouva aux gens. Et ça, c'est la shita de Aaron. C'est la technique de Aaron. Pas de Hur et pas de Moshe. Mais c'est la technique d'Aaron. Et donc, si l'homme Israël veut fauter, il ne va pas les laisser tout seuls. Il se dit quoi, Aaron? Il se dit, si jamais il me tue aussi, bon, moi je suis mort, c'est pas grave, Olam Haba, direct, on s'en fiche. Mais, qui va les aider eux? Ils n'auront plus personne, les pauvres. Donc je ne peux pas les laisser comme ça tout seul. Il faut que je les aide. Et si pour ça, il faut que j'aille les chercher au plus bas, eh bien j'irai les chercher au plus bas. Qui nous a appris ça? Dans les rabbanim d'il y a à peu près 300 ans? Ben oui, Rabbi Nachman de Breslav, dans la fameuse histoire du prince qui se prenait pour un dindon.
Je ne le connais pas.
Mais si, ça y est, maintenant on la connaît. Ça y est, elle l'a relu, elle l'a re-relu. C'est-à-dire, on se rappelle, on l'avait déjà évoqué, ce prince qui se prenait pour un dindon, il s'était mis tout nu et sous la table, et il faisait coucou-glou, et aucun médecin n'a réussi à le guérir. C'est ce qu'un homme arrive un jour et dit au roi, moi je vais le guérir. Il s'est mis lui aussi tout nu, il s'est mis sous la table, il a commencé à faire glou glou glou, et en traduction littéraire, ça veut dire « Ah salut, t'es un dindon, ouais, moi aussi ». Et ils ont commencé à sympathiser jusqu'à ce que finalement, eh bien, il le ramène à son statut d'homme. C'est-à-dire que pour le ramener, eh bien, il a été obligé de descendre là où il est. Ça a l'air ? Tov, zé, shita, l'obshuta, Moshe, il n'est pas d'accord avec ça. Moshe, il dit « Quand c'est assourd, tant pis, tu meurs ». Mais sans rentrer maintenant dans Moshe, parce qu'on y reviendra à Moshe quand il redescend, on n'a pas répondu à la question pourquoi le peuple veut faire ce qu'il veut faire. Et puis qu'est-ce qu'il veut faire d'ailleurs? Vaillard. Oui.
Alors, quand il y a des prophètes qui font au Rabchar,
ouais.
C'est contre l'avis de Moshe Rabbeinu?
Non, c'est contre l'avis de Moshe Rabbeinu avant Maaseh HaEgel. Après coup, il a accepté l'idée de Aaron. Il a quand même fait le Kohen Gadol. Donc ça veut dire qu'avant cette histoire-là, il était contre cette idée-là. Après cette histoire-là, il a bien vu que Akadosh Baruch Hu aussi, il est d'accord avec Aaron. Donc dans la Torah de Moshe, au final, il y aura cet alinéa de Hora Tcha Shenel. D'accord ? Agav, des fois, et c'est beaucoup plus rare, il y a aussi Hora Tcha Shel Sanhedrin. Ça arrive aussi. Exemple. Que le Sanhedrin a décidé de transgresser une halakha clairement établie. Ben, ils ont écrit la Mishnah. La Torah orale a été mise par écrit. C'est interdit. Aval, et la asot l'Hashem et feru Torahtecha. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, là maintenant, pour faire la volonté divine, il faut transgresser la Torah. El malasot.
On a vu récemment qu'il y a 100 rabbinis qui peuvent se réunir pour faire en sorte que, appliquer, pour faire en sorte que qu'un homme puisse se marier.
Ah, tu fais référence à un certain événement d'actualité avec une certaine personnalité du show business.
Deux personnalités du show business.
Pourquoi? Elle est personnalité lumineuse, moi ouais, je la connais moins. Top, je suis la brioute. Donc d'un chanteur très connu, religieux, qui, alors qu'il n'est pas encore divorcé, eh bien, il s'est remarié avec une autre femme, en l'occurrence pas du tout religieuse, mais c'est pas ça le débat. Le débat, c'est comment est-ce qu'on a pu lui permettre de se remarier alors qu'il n'est pas divorcé. Ça, c'est pas Horacha. Parce que c'est une takana des Rabbanan que d'interdire la polygamie. Donc, si tu veux, c'est quand même pas le même, c'est pas la même, le même poids que des rabbins enlèvent un interdit de un rabbin, en l'occurrence, puisque c'est takana Rabbeinu Gershon Meor Hagola, Omnam qui s'est étendu et qui a été accepté par tout le monde. Mais c'est une takana d'un rab qui avait des épaules énormes. Voilà. Donc c'est autre chose que d'enlever ça. Je suis contre. Hein. Ok, je suis contre cette histoire-là.
Tu fais pas partie des 100.
Non, je fais pas partie des 100 qui ont signé ou qui ont donné la permission. Je pense qu'il ne fallait pas donner la permission. Je pense que c'est l'obécédaire de donner la permission.
Bah pourquoi pas.
Pourquoi pas. Trois raisons. Tu veux laquelle? La première, la deuxième ou la troisième?
Dans l'ordre.
Dans l'ordre. Aleph, parce que si ça n'avait pas été lui, on ne l'aurait pas donné. Exactement. C'est uniquement parce que c'était monsieur et qu'il avait un retenti médiatique. C'est Aleph. Bête. Parce que Mazach tue à elle au divorce. Je croyais. Et alors?
Il suffit qu'il donne.
Tant pis. Troisièmement.
Deuxième.
Non, j'ai dit deuxièmement, divorce.
Oui.
Point. Eh bien, elle fait ce qu'il faut pour qu'elle veuille. Troisièmement, dans la mesure où on ne permet pas, et on a raison de ne pas le permettre dans l'autre sens, il est hors de question de permettre dans ce sens-là.
Ben oui.
Point.
Mais il n'y a pas de symétrie en fait dans les divorces et dans la polygamie.
Eh bien, il serait peut-être bien qu'on commence.
C'est-à-dire ? Pourquoi il n'y en a pas de base ?
Non.
Il y a une raison particulière spirituelle ?
Non.
Au-delà du fait que ça a été créé à des moments où...
Non, c'est pas une question de moments. C'est une question que, dans les bases du mariage, c'est l'homme qui contracte le mariage et qui peut donc dissoudre le mariage. Maintenant, ok, j'entends ça, mais à partir du moment où on a accepté dans le peuple juif que, en fait, ça marche dans les deux sens, on n'était pas obligé de l'accepter, mais on l'a accepté il y a 1000 ans. C'est-à-dire ? Ben à partir du moment où on l'a accepté, il ben ne faut pas déroger à ça. C'est très bien qu'on l'ait accepté. C'est très bien qu'on ait arrêté la polygamie. Moralement, c'est très bien. Et c'est très bien aussi qu'on ait, oui, rééquilibré les choses dans les divorces et dans les mariages. C'est très bien. Donc, il n'y a pas de raison de trouver des trucs juste parce qu'il y a un mec qui n'est pas content. Ça ? Pas de bras.
Pas de chocolat.
Ça ? Zemaïch. Quoi qu'il en soit... donc non, c'est pas malgré tout ce que je viens de dire, c'est quand même pas la même chose que Horacha. Quoi qu'il en soit, ici, on va voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils veulent les Bnei Israël? Donc je répète, on a dit, ils sont dans un état où ils ressentent que Dieu, il est là, il doit être là. On doit avoir un représentant d'Akadosh Baruch Hu ici. ויאר העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על הארון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מאיילו. Ce qui veut dire littéralement, ils se sont réunis autour de Aaron et lui ont dit, lève-toi et fais-nous. Comment tu traduis? Fais-nous.
Parce que c'est Moshe qui manque.
Un Dieu.
Parce que Dieu est là.
Qu'il aille devant nous, parce que Moshe qui nous a sortis d'Égypte n'est plus là.
Donc ça ne peut pas être un Dieu.
Tu remets tes lunettes au cas où tu es mal lu.
Mais j'ai vu Elohim, mais
là, ils traduisent au pluriel. On traduit au pluriel chez moi.
Mais ça veut dire quoi, une traduction
pour elle? Fais-nous des dieux.
Mais c'est ch'touyot bémit sagvagnot.
Ils marcheront devant nous.
Mais c'est ch'touyot. C'est ch'touyot bémit sagvagnot.
Ça contredit ce que tu dirais D'accord. On sent la présence de D'accord. Dieu. Donc on ne veut pas des dieux, on veut un représentant.
Donc on veut un représentant de Dieu.
C'est Moshe qui manque.
Ah, donc ça veut dire que ce qu'on va faire maintenant, en l'occurrence, il paraît que vous êtes au courant que ça va être un veau en or, il est le remplaçant de qui ?
De Moshe.
De Moshe.
Ils n'ont pas dit parce que Moshe Rabbeinu n'est pas là.
Ils ah bon
pas
dit. Non. Non. Ils ont dit qui Moshe Aïch Asher Elanu Meretz Mitzrayim lo yadanu me'ayalo. Parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à Moshe. En d'autres termes, Moshe n'est pas là. Donc, fais-nous un remplaçant à Moshe. C'est tout. Donc à aucun moment le veau d'or n'est censé remplacer Dieu. À aucun moment le veau d'or, c'est Dieu. Je ne traduis pas « fais-nous un Dieu ».
C'est ce que tu as traduit il y a deux minutes.
Non, je n'ai pas voulu alors, traduire. Je n'ai pas voulu traduire. « Fais-nous un Elohim ».
Non, c'est pas ce que tu as dit.
Oui, mais c'était exprès pour,
la
vous,
technique,
c'était exprès pour vous induire en erreur. Ouais. « Fais-nous un Elohim ». Et on a dit « ce Elohim, c'est en fait le remplaçant de qui ?»
De Moshe.
Moshe. Bon, et ça t'aide ? Ça veut dire que Moshe, c'est Elohim ?
Non,
c'est
on l'avait dit, si. Si. Ça dépend de ce que ça veut dire, Elohim.
Si, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Non, si c'est le juge.
Ah, les juges, c'est Elohim aussi.
Oui.
Donc ça ne dérange pas.
C'est un manichéen, quoi.
C'est quoi ?
On l'avait appelé comme ça.
Tous les manichéens, c'est Elohim.
Ben
non. Slicha.
Nahok.
Quoi, Moshe Ishaï Elohim ?
Non, Moshe.
Ça, c'est pas encore. Non, le verset que tu cites, c'est pas encore. Ce sera dans la fin de Devarim.
Ah, okay.
Aval, tu fais référence à autre chose qu'au tout début du livre de Shemot, lorsque Moshe est choisi par Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Dieu dit à Moshe, va voir Pharaon et Aaron il va venir avec toi. Hu yelecha l'epeh ve'ata tiyelo l'Elohim. Donc, le titre Elohim a été donné à Moshe par Dieu. Oui, il a été donné également au juge dans le verset Elohim Lotekalen.
On n'a pas encore.
Pourquoi pas ?
Si, on n'a jamais.
Parachat de Mishpatim ?
Ok.
Hein ? Donc, oui, les juges, Moshe, c'est-à-dire ceux qui dévoilent l'authenticité de la Torah, l'Elohim. Parce que c'est le dévoilement qui permet. Enfin, c'est le cli qui permet le dévoilement de Dieu. Pas chaud. Donc, à aucun moment, le veau d'or n'est censé remplacer Yudke Vavke. Il est censé remplacer Moshe. Ça va ? Est-ce que vous pouvez me donner d'autres choses qui ont le titre de Elohim ? À part Moshe et les juges ? Non, non, là, ça fait référence à Dieu. Mais sur un certain dévoilement. Ah, tu parles de Bnéa Elohim. C'est ça que tu veux dire ? J'ai pas parlé de Bnéa Elohim. Elohim tout court. Où ? Où c'est marqué ?
Non ? Se précipite à l'encontre des deux anges, il leur dit maître en français.
Adonai, il dit pas Elohim.
Tu es sûr que tu
as fait ? Je suis désolé. Alors ? On l'a vu ça aussi, hein. Eh oui. Eh oui. Je t'invite à aller retrouver les anciens shiurim. Et d'ailleurs, on l'a lu il n'y a pas si longtemps, puisqu'on l'a lu Shabbat. Dans la paracha de Yitro. Qu'est-ce qu'on a lu là-bas ?
Fêta des juges et les appels de la
réunion. Je vous rappelle la fin de la paracha de Yitro, que nous avons lu ce Shabbat. Il est marqué la chose suivante. Iné. Iné. Chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4, page 92 dans le livre blanc. Lota asun iti. Dieu dit. Lota asun iti. Eloé kesef. Ve Eloé zaav. Lota asu lachem. Ne faites pas avec moi des dieux, évidemment que ça ne veut pas dire dieu, mais des Elohé d'argent, et ne faites pas pour vous de Eloé d'or. Nous dit Rashi, Maze Eloé Kesef, Baal et Azir à la Krouvim, vient prévenir pour les chérubins qu'on n'a pas le droit de les faire en argent. Veloé Kesef, Veloé Zav, ça veut dire que les Krouvim, on n'a pas le droit à l'Ota Asulachem, on n'a pas le droit de les mettre dans les synagogues, c'est que au Bet Amigdash. Maskana, conclusion, Eloé Kesef égale Krouvim. Eloé Zahav égale Krouvim. Donc les chérubins, ce sont des Eloé Zahav. On va le dire autrement. Des statues en or, ce sont Elohim, Asher Yelchou Lefanenu. Vous comprenez ce qu'il demande ici, les Bnei Israël ? Kouma, c'est l'anneau Elohim, Asher Yelchou Lefanenu, et ça va prendre la forme d'une statue en or. Bah, c'est exactement ce que Dieu il va demander de faire. D'accord ? Donc, vous comprenez que l'intuition des Bnei Israël, elle est bonne. J'ai dit, et Révrav qui a chauffé le peuple juif.
C'est vrai ? On avait dit que les Krouvim, c'était un moyen de communiquer avec Hachem.
C'est l'ustensile qui permet le dévoilement.
Ouais.
Donc c'est ça qu'ils veulent.
Donc c'est normal qu'ils veulent ça.
Il a fait. Donc tu as compris que c'est pas la Vodazara toute pourrie qu'on a appris quand on était jeune. Que les Israël, ils sont tout nuls et ils veulent remplacer Dieu par un taureau. Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai ?
Hein ?
Pourquoi on l'a fait ? On a fait que lire les versets, hein, on n'a rien fait d'autre.
Je suis d'accord, mais pourquoi on l'a fait ? Tout le monde l'apprend de manière perdue.
Maniassé.
Alors ? Non, je sais pas.
Tu veux que maintenant j'explique pourquoi on t'a mal appris ?
C'est pas
ma faute.
C'est pas que nous, je
veux.
Non ?
C'est pas fair play. Je peux pas. Machekel.
C'est la Torah d'Israël plutôt que la Torah de Khoutz.
Oui, mais enfin là, on a rien dit d'extraordinaire à part lire les versets. Hein. Ça, je veux dire, tout est marqué noir sur blanc. Maintenant, il y a un truc qu'il faut bien qu'on comprenne. Par contre, on n'a toujours pas expliqué pourquoi ils en ont fait un veau.
C'est ce qui est sorti.
C'est ce qui est sorti. Ça veut dire quoi, c'est ce qui est sorti?
Ben, eux, ils n'ont pas demandé un veau.
Alors, on va essayer d'avancer un petit peu et d'essayer de comprendre. D'accord? Kouma selanu Elohim asher yelchou lefanenu, ki ze Moshe ha'ish asher elanu meretz Mitzrayim lo yadanu me'ayalo. ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. Pourquoi Aaron il demande ça? Prenez les bijoux qu'il y a sur vous et vos femmes, vos enfants.
Parce que les femmes, elles voudront pas.
Parce que ça peut, pour gagner du temps.
Elles voudront pas les.
Alors, là encore, on a appris ça, Chazal le dit, ils veulent pas les donner. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça marche pour les femmes. Benechem ou Venotechem, ils ont rien à dire. Qui décide pour les enfants? Mais le méchané. C'est le père qui décide. À la limite que maman, elle ne veut pas donner ses bijoux, quoique, même à l'époque, c'est qui décide? C'est papa, hein, il n'y a pas de discussion.
Oui, mais quand même, les femmes, elles savent peut-être faire revenir à la maison leur mari.
Peut-être.
Peut-être c'est pour ça. Parce que
peut-être. Ou alors, c'est très bien que Aaron il ait demandé ça. Parce que nous dit Rabbi Eliezer. Pardon ? Ou alors, c'est peut-être très bien que Aaron il ait demandé ça. Parce que nous dit Rabbi Eliezer Ashkenazi, au XVIe siècle, que les. Enfin, Aaron savait très bien, connaissait bien l'Égypte. Et il savait bien que les bijoux étaient en forme de divinité et avaient été mechouchafim, avaient été ensorcelés par les Égyptiens. Et que donc il y avait dans ces bijoux quelque chose qui les retenait dans leur relation véritable à Kadosh Baruch. Et donc Aaron dit, il faut se débarrasser de ça. Maintenant ça marche aussi avec le fait qu'il veut gagner du temps, pourquoi pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la suite. Vayikach miyadam, vayatzar oto bacheret, vayasu haegel egel masecha, vayomeru, ele Elohecha Israël. Et on a bien dit, il ne s'agit pas d'un remplaçant à Dieu. Mais dans remplaçant Moshe, il y a deux secondes, on nous a dit Kaish Moshe, Asher et Hélène, Omer et Mitzrayim. Et c'est effectivement Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte. Bien sûr que c'est pas là, c'est Akadosh Baruch Hu, mais c'est qui l'intermédiaire? C'est Moshe. C'est vrai? Maintenant, on a tout par donc répondu à pourquoi un Hegel. Mais juste deux secondes avant d'y répondre, Vayikach Aaron Vayiven Mizbeach Lefanar. Donc il a créé un hôtel devant. Vayikra Aaron Vayomar Chag Lachem Machar. Dans la suite. Chag Lachem Machar. Et personne ne s'est opposé. Donc tout le monde est d'accord que la fête, elle sera pour qui?
Hachem.
Donc encore une fois, je répète, les bénis Israël ne sont pas des idolâtres. Ils veulent servir Dieu, mais ils le servent mal. Et ils vont faire Egel Masecha. Hachela Lama. Pourquoi ils vont faire un Vodafka? Zebaï. Alors Midrash nous dit que lorsque Aaron il a mis tout l'or machin dans le chaudron, après il y a quelqu'un qui est venu et il a jeté le talisman que Moshe avait utilisé pour faire sortir les ossements de Yosef du Nil, sur lequel il y avait un talisman de Moshe où il y avait marqué « Alecho, monte taureau ». Et Yosef, c'était sa bracha, « Bechor Shoro Adarlo ». Et donc, en lançant ça dans le chaudron, bah, est sorti le taureau de Yosef. Bon, mais ça veut dire quoi, ce Midrash? Qui cherche quoi? Il cherche la force de Yosef. Encore une fois, on est loin, loin, loin de la Avodah Zara Stam. Mais il y a un problème. Il nous dit Sefer Tehilim, quand il parle de la faute du Vaudor, il dit Vayamiru et Kevodam, Betavnit Shor, Ochel Esel.
Ah, Kappa.
Donc c'est quoi le problème? Ils ont échangé leur kavod par le visage, si tu veux, d'un taureau qui mange de l'herbe. Bah, il fait plein d'autres choses que de manger de l'herbe, le taureau. Mais c'est quoi, en quoi on voit qu'ils ont fait quelque chose de mal? C'est parce que le taureau, il mange de l'herbe. Ma baya.
Il ne peut pas les diriger
s'il mange de l'herbe. Bon, et l'homme, il ne mange pas d'herbe. Enfin, il mange autre chose,
mais
il va me chaner. Il y a une grande différence entre la façon dont l'animal mange et dont l'homme mange. Il y en a un qui arrive vers la nourriture et il y en a un qui fait monter la nourriture vers lui. En d'autres termes, est-ce que tu es esclave de la nature ou est-ce que tu t'élèves au-delà de la nature? Est-ce que pour toi, le dévoilement divin, c'est du panthéisme ou est-ce que c'est du transcendantisme? Désolé d'utiliser des mots un petit peu compliqués, mais est-ce que ça veut dire que tu vois Dieu uniquement dans les forces du monde, ou est-ce que tu comprends qu'il est au-delà? Et le problème donc des Bnei Israël, c'est de vouloir trop voir Akadosh Baruch Hu uniquement dans le monde. Vous comprenez que c'est vachement plus dak que la Avodah Zara qu'on a l'habitude d'entendre. C'est exactement vachement bien utilisé comme mot. Ok? Ok, mais c'est l'agamour. Donc maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a refait ça? D'ailleurs, finalement, il aurait fallu faire quoi? Dans l'idéal, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Attendre
Moshe. Et qu'est-ce qu'il aurait dit de faire, Moshe? Des Kruvim. Donc c'est-à-dire que la statue en or, elle aurait eu lieu. Seulement, ça aurait été Betavnit Adam. Ça aurait été un visage d'homme. Et là, ça aurait été super. Il y avait deux autres solutions. On aurait pu faire également soit un visage d'aigle, soit un visage de lion. Ah oui. Ben oui. Parce que l'homme, le taureau, l'aigle, le lion sont ce qui permet de dévoiler Dieu, puisque ce sont les animaux, entre guillemets, qui tiennent le trône céleste. On n'est pas encore arrivé à Yéhézkel, certes. Par contre, il y a une question que j'aimerais bien poser. Si.
Oui, il y en avait un.
C'est ce que je dis.
Voilà, mais après, ça reste toujours un animal.
Eh bien, mais donc eux, ils ont fait un taureau.
Ils ont fait un taureau.
Je dis, ils auraient pu faire aussi un lion, moi. Est-ce que vous connaissez un nom
hein?
Quoi, pardon?
L'aigle et
le lion sont tamés. D'accord, que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a échangé les Krouvim pour un veau d'or?
Micha.
Micha. Comment tu sais que c'était un veau? Et puis d'abord, c'était pas en or, c'était en argent. Et on ne nous dit pas à quoi ressemblait la Pesel Micha. Peut-être toi, tu as des infos que je n'ai pas, mais enfin, moi, je ne sais pas à quoi elle ressemblait. Peut-être, oui. Il y avait un roi qui s'appelait Yéroboam ben Nevat, qui a fait Jéroboam en français, qui a fait deux veaux d'or, un à Bethel et un à Dan, lorsqu'il a séparé le royaume d'Israël en deux royaumes, royaume d'Israël au nord, royaume de Yehuda au sud. Eh bien, il a mis deux misbechot, deux mikdashim, un au sud de son royaume à Bethel, un au nord à Dan, et il y a mis chaque fois un veau d'or. Ah. Nous dit Yosef ben Matityahu, Flavi Joseph, lorsqu'il raconte dans les Kadmoniot à Yehudim, les antiquités des Juifs, lorsqu'il raconte l'histoire de Yéroboam ben Nevat, il dit que Yéroboam, pourquoi il a fait des veaux d'or? Il n'a pas lu dans la paracha de Kitsa que c'est pas bien? Il dit, car Yéroboam, il a dit, Kach lamadnu mi Aharon bamidbar. Sauf que qui l'a mis en place? Un prophète. Donc il se voit investi de la mission d'Akadosh Baruch Hu.
Oui, mais d'un autre côté, il a dévié. Quoi.
Ah, que, caché, hein? Caché, hein? Il a dévié. Non, tu as raison. C'est caché. Caché. En tout cas, on se rend compte que les Bnei Israël, ce n'est pas n'importe qui. Alors, la suite du film, comment ça se passe? Vayashkimu mimachorat. Vayalu olot vayagishu shelamim. וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. אלא on a un problème. ויקומו לצחק. הנוסאג' הוא נודיר, אין לצחק אלא גילוי עריות, או שפיכות דמים, או עבודה זרה. C'est-à-dire que l'idée, on a dit qu'elle n'était pas aussi négative qu'on aurait pu penser, dans les faits, ceux qui ont été les instigateurs de l'histoire, eh bien, sont tombés.
Mais
oui.
Ils ont des holotes qui nous ont apporté à Dieu.
Ben, semble-t-il. Pardon? Semble-t-il. Mais le problème, ce n'est pas sur les holotes. Le problème, c'est Vayakumu les Tzachek.
Mais bien, c'est important de savoir si c'est à Dieu. Comme Aaron, il bougeait.
Oui, on a aucune raison de penser que les holotes et les shlamim, ce n'est pas pour Dieu. Mais le problème, c'est Vayakumu Letzachek. Nous dit Rashi, Letzachek, yesh ba mashma ze gilou yarayot. Ok? C'est ça le problème. Maintenant, le problème, c'est Letzachek, c'est un mot magnifique. Vous connaissez un Yitzhak? Alors pourquoi Yitzhak, c'est génial, et Letzachek, c'est pas bien? Ou alors, il y avait un monsieur qui s'appelait Ishmael. Quand est-ce qu'il a été jeté de chez lui? Quand Sarah, elle l'a vu qu'il était Metzachek et Yitzhak. Donc, quelle est la différence entre Ishmael et Yitzhak? Eh bien, Yitzhak, il est Yitzhak au futur et Ishmael, il est Metzachek au présent.
C'est aussi pas la même forme grammaticale.
Pourquoi?
C'est pas Metzachek et Metzachek.
Achon. C'est Kal, c'est Piel. Mais bon, c'est la même racine, tout de même. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui comprend que Litzrok, Zerak ba Olam Haba, ou Yitzrak, parce qu'il comprend que Olam Hazé, on n'y est pas encore. Mais celui qui pense qu'il peut être Metzachek ou Letzachek ba Olam Hazé, alors il a un comportement qui est absolument inadéquat avec la réalité du monde. Donc il n'est pas du tout là. ויקומו לצחק. וידבר השם אל משה. לך, רד, לה. Tu peux dire ce que tu disais tout à l'heure. רד מגדולתך. כלום נתתי לך גדולה, אלא בשביל העם הזה. Toute la grandeur que tu as donnée, c'est pour eux. Eux, ils sont tombés. Il faut que tu descends toi aussi de ton piédestal. לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים שר ומהר.
Dieu n'aurait pas demandé à Moshe de descendre.
Non, il serait descendu. Il serait descendu. Mais Dieu lui aurait pas dit de descendre. C'est-à-dire qu'il y aurait eu simplement une descente physique de la montagne. Il n'y aurait pas forcément une chute spirituelle.
Moshe, il descend sans demander l'autorisation.
Non, dis-moi, si Dieu lui avait dit l'air, je vais où alors? Il est au sommet de la montagne, il ne peut que descendre maintenant. Le fait qu'on nous dise l'air verred, il y a ici une dimension de la redette, pas seulement au niveau physique. Et donc, Tsaru maher min aderech asher tzivitim, asu lahem egel masecha, veishtachavu lo, veizbechu lo, veyomru, ele Elohecha Yisrael asher ha'elucha me'eretz Mitzrayim. Veyomer Hashem el Moshe, ra'iti et ha'am hazeh, ve'hineh am kesheoref hu. Non. Parce que le Révrav, ils ont réussi à avoir une influence sur tout le peuple juif. Non, c'est, encore une fois, Amazé Chachere, l'État, c'est le Révrav. Mais ils ont réussi aussi à avoir une influence sur tout le monde. D'accord ? Donc on a dit, ceux qui commencent, c'est eux.
Pourquoi maintenant, ils parlent de l'Israël, alors que c'était ce que... Bah, lui, il n'avait plus rien à voir avec.
Qui ?
Alors qu'il y a un père Hachem.
Ah oui, mais tu comprends que là... Oui, mais là, tout ce qui est en train de se dialogue, il n'est pas pour nous.
Il est pour Moshe.
Donc ça veut dire que Moshe doit comprendre que maintenant il a un rôle à jouer. Et le rôle de Moshe est de prendre la défense du peuple juif maintenant. C'est un test en fait pour Moshe. Et donc il lui dit, Vayomer Hashem el Moshe, Ra'iti et ha'am hazeh, ve'hine am kesheoref hu, ve'ata anicha li, ve'icha rapi bahem ve'achalem, ve'etze otcha legoy gadol. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vais exterminer ce peuple.
Tu connais tous les films.
Et à partir de toi, je
refais. Attends. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais tous ces films où tu as toujours un binôme comme ça, où il y en a un qui est très fort, machin, et l'autre qui est tout petit, qui n'est pas très fort. Et très souvent, tu as le petit qui dit au fort, tiens-moi. Il dit, retenez-moi, je vais me les faire, retenez-moi. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, laisse-moi, je vais les tuer. Qu'est-ce que ça veut dire?
Que tu as une possibilité.
Ça veut dire, on ne me laisse pas
de, non, que toi, Moshe, si tu le désires, tu peux m'empêcher de les exterminer.
C'est pas que tu peux, tu dois. C'est ça ton rôle. Parce qu'après, il lui dit, et je ferai de toi un grand peuple. Est-ce qu'à un moment donné, à Kadosh Baruch Hu, il a pensé qu'il fallait que Moshe devienne le patron du peuple juif? Le père du peuple juif? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et le Midrash le fait très bien comprendre dans la bouche de Moshe. Il lui dit, ah, une chaise qui avait trois pieds, elle tient pas. Tu crois qu'une chaise avec un seul pied, elle va tenir? Ah, le peuple juif qui est descendant d'Abraham, Israël, qui est Yaakov, ça marche pas. Tu crois que maintenant, avec un seul descendant, avec un seul pilier, ça va tenir? Ça tiendra pas.
Oui, mais c'est le contraire.
Pourquoi?
Il dit pas, retiens-moi. Il dit, laisse-moi.
Laisse-moi. Oui,
c'est le contraire, mais il peut dire qu'il dit, retiens-moi.
Oui, il lui dit pas, retiens-moi, mais c'est ce que ça veut dire. Bah, quand tu dis laisse-moi, ça veut dire que Moshe, il a la possibilité de ne pas le laisser. Et effectivement, il ne doit pas le laisser. Parce qu'il doit comprendre que la grande différence entre lui et Abraham, c'est quoi? C'est que Abraham, il est grand tout seul. Nachon, comment il s'appelle à l'origine? Ce qu'il veut dire? Un grand papa. Un père grand. Av, Ram. Alors que Moshe, lui, il est que Ben, Am, Ram.
Ah, c'est le fils d'un grand
peuple. C'est le fils d'un grand peuple. Ram, bon, il se trouve que son père, il s'appelait Amram aussi. Mais, ou Ben, Am, Ram. Donc, ça veut dire que toute la force de Moshe, elle vient du peuple juif. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Et là, effectivement, Vayechal Moshe et Pene Hashem Elohav, Vayomer, Mazé Vayechal Moshe et Pene Hashem Elohav. À ce moment-là, nous dit le Midrash et le Talmud que Moshe, il a mis son talit sur la tête et il s'est assis comme un Dayan. Et il a dit, Aribono Gelolam, c'est pas Moshe qui parle, je viens au nom de Klal Israël. Et je te dis, Kol Nidre ve Sare ve Charame ve Kaname ve Kinume ve Kinuye ve Kinuse, Betelim umvutalim, lo shririm ve lo kayamim. Machulecha, machulecha, machulecha. Si tu voulais faire quelque chose au peuple juif et que tu avais fait un neder, Ani matir et un neder shelcha ribono shelolam. J'annule tes vœux. Et en souvenir de ça, eh bien nous disons à chaque entrée de Yom Kippour, Kol Nidre. Pas pour annuler nos vœux, mais pour annuler les vœux d'Akadosh Baruch Hu qui biachol contre le peuple juif. Et on le fait parce qu'on ne vient pas en tant qu'individu, mais on vient en tant que collectif d'Israël. Et c'est pour ça qu'on précède cette phrase en disant que nous voulons tout le monde, Anu Matirim Leit Palel Ima Avarianim, on veut tout le monde pour pouvoir avoir la force de Moshe, de dire à Dieu, si jamais tu voulais faire quelque chose au peuple juif, ne le fais pas. Machulecha, machulecha, machulecha.
C'est ce que Hachem attendait de...
Mais c'est exactement ce que Hachem attendait de Moshe. Quelle va être la réaction d'Akadosh Baruch Hu par rapport à tout ça? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.
C'est une des raisons pour lesquelles on dit d'autres qu'on voudrait.